le 16.
Il y a du Simple Plan dans l'air. Donc, vous venez d'entendre 23 de Nick. Allez écouter son nouvel album. Oui, c'est ça, c'est l'heure de ma chronique aujourd'hui. J'ai décidé de... j'ai aucune idée qu'est-ce qui m'a mené à cette recherche-là, mais j'ai décidé de regarder un peu les inventions absurdes, des inventions un peu stupides, et puis finalement, de fil en aiguille, je suis arrivé sur des inventions qui ont été jugées absurdes, mais qui, aujourd'hui, se sont imposées quand même. Puis, j'aimerais ça t'entendre. Est-ce que t'en connais, toi, ces inventions-là qui sont prometteuses, mais qui finalement sont mortes dans l'œuf.
C'est ça, tu me prends un peu par surprise de penser à ça tout de suite. Il y a comme une chose qui m'est venue en tête, mais je ne suis pas sûre qu'on peut la catégoriser comme étant une invention qu'on pensait glorieuse, mais juste le fameux petit jeu de mini-pot miniature que les gens mettent dans leur bureau, mettons.
Je me dis,
ben, c'est-tu vraiment nécessaire? Les gens font-tu vraiment ça au bureau? Ils ont-tu le temps de le faire? Si oui, on peut se poser des questions. Mais
c'est pas faux. Ben, tu sais, moi, il y avait les fameuses lunettes Google, il y a une couple d'années où, comme,
t'as des
lunettes.
Ah,
je sais pas. C'est quoi le nom exactement, mais c'est ça. Tu vas recevoir tes courriels direct dans ta lentille, puis tout. Puis là, le monde était comme moi, mais on voit pas super bien. Puis je me demande si les nouveaux casques de VR, ça s'en vient pour être ça, là, Meta ou Facebook. En tout cas, peu importe, investissent beaucoup d'argent pour quelque chose que je vois pas. Je ne vois pas mettre des casques de même, puis genre faire une réunion en ligne. En tout cas, je sais pas trop. Exactement. Mais là, on va parler de ces inventions qui ont été jugées absurdes. On commence tout de suite en force avec les vélos. Les vélos, les gens... en fait, le vélo est apparu comme un objet de mode à la base vers la fin du 19e siècle. C'est ça, c'était vu surtout... c'était surtout des femmes, en fait, qui l'utilisaient. Outre le fait que c'est un peu absurde d'essayer de faire du vélo avec des grandes robes, surtout à l'époque, c'est ça, c'était vraiment accompagné de... Ça faisait partie de la fashion de l'époque. Puis les gens à l'époque ont fait, ben, tu sais, c'est peut-être... Ça se veut comme le moyen de transport révolutionnaire, mais c'est pas faisable faire du vélo. On se rappelle qu'à l'époque, c'était des routes pas pavées aussi. Fait que faire du vélo dans de la boîte ou dans de la terre battue, des affaires de même, c'est jamais très, très, très plaisant. On disait aussi que c'était un outil qui était difficile à perfectionner. Tu pouvais pas... quelle amélioration tu veux faire à un vélo? Bon, évidemment, l'histoire leur a prouvé tort parce qu'on a amélioré la qualité des pneus, on a amélioré la qualité des frames, la proportion des roues aussi. Il y a les fameuses images de la grosse roue en arrière, la petite roue en avant, des affaires de même. C'est ça. Il y a eu quand même un buzz à la fin du 19e siècle qui disait même que c'était le sport national, le cyclisme. Quelques années d'après, tout le monde pensait que c'était pas sécuritaire, puis que c'est ça, ça pognerait jamais. Et finalement, c'est
un moyen de transport très utile aujourd'hui.
On en connaît plein de moyens de transport aussi qui ont essayé de percer de même. Là, il y a le fameux... le Segway, je pense qu'il s'est quand même un peu imposé, même s'il n'y a pas personne qui a ça.
Il y a encore des endroits, par contre, qui font des tours de Segway dans les villes. Ça fait plus tour touristique, mettons, mais je vois personne se promener comme ça dans la rue, mettons.
Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais peut-être 10 ans, il y avait des souliers avec une roue qui rentre puis qui sort de même. J'ai tellement voulu avoir ça. Puis je voyais, tu sais, je pense que j'ai vu deux personnes dans ma vie avoir ça. Puis ça avait l'air quand même cool.
Moi, c'était la mode au primaire, là. Puis les jeunes se faisaient taper ses doigts par les enseignants parce qu'ils mettaient ça dans l'école. Quand ils levaient leur semelle, on voyait la roue souvent. Moi aussi, j'étais vraiment, c'est bien cool d'avoir ça.
J'en ai jamais eu. Je sais pas si ça se vend encore au Yellow, mais j'irai faire un tour. Il y a aussi l'espèce de, je sais pas comment le dire, là, mais il y en avait deux. Tu sais, il y en a un qui est un deux roues, mais c'est comme un Segway, mais pas de manche, essentiellement.
Un overboard, je pense que c'est ça.
Il existe encore un peu. Puis il y avait l'autre aussi où les deux pieds sont indépendants. Puis là, il fallait que tu te promènes de côté de même, en tout cas.
Mais ça, c'est classique pour les vidéos du monde qui tombe à terre.
C'est ça, exactement. Ça, je pense que ça va pas pogner nécessairement. Mais en tout cas,
surtout avec nos nids de poules ici au Québec, c'est risque de pogner une débarque assez vite.
C'est pas évident. Deuxième invention, encore une fois, on reste dans le domaine du transport, les automobiles. Encore pour quelques-unes des mêmes raisons. Faire de la voiture quand les routes sont dégueulasses, c'est pas pratique. C'était aussi, la principale critique qu'on faisait, c'était qu'il n'y a pas personne qui va pouvoir se permettre ça. Ça coûte trop cher à faire. C'est sûr qu'à l'époque pré-fordienne, c'était du cas par cas, ou en tout cas du pièce par pièce, donc c'était difficile. Mais c'est vraiment Ford qui a démocratisé puis qui a pu abaisser les coûts de production en automatisant, le processus et puis le travail à la chaîne. jeune, essentiellement. Donc, ça aussi, c'était vu un peu comme un sport, le sport de course et tout, un truc un peu plus de bourgeois, mais personne n'envisageait que ça allait devenir un vrai moyen de transport efficace. Et puis, il y avait même, à l'époque, justement, les compagnies d'automobiles avaient demandé qu'on fasse des rues en acier, justement, pour que ça fasse... Ça roule mieux. Ça coûte cher, des rues en acier.
Probablement fait que, plus que ce qu'on a en ce moment.
Oui, exactement. Mais ils sont revenus à la charge dans les années 50, où là, quand on s'est mis à faire des autoroutes, ils ont demandé justement un financement public pour faire des routes carrossables pour leur voiture. Et puis c'est là que, surtout dans les années 50, évidemment, les voitures iconiques ont commencé à apparaître et tout. Donc, voilà. Donc, la voiture, là, on se transporte, on est encore un peu du côté de la mode, mais c'est quelque chose, je ne sais pas si tu en portes en ce moment, mais c'est du vernis à ongles.
Ah, non,
ouais, t'en as pas. Mais donc, ça, c'était considéré à l'époque comme une mode. À l'époque, il y avait d'autres alternatives. Il y avait de la poudre, de je sais pas trop quoi. Mais ça aussi, c'est né, c'est Cutex qui a inventé ça, évidemment, en 1917. Puis, ça a pris près d'une dizaine d'années avant que ça commence un petit peu à pogner, surtout à Londres, dans le domaine, ben c'est ça, dans les classes un peu plus huppées, aisées. Même encore dans les années 30, on se demandait est-ce que ça allait être une mode ou pas. Bref, les gens ridiculisaient ça un petit peu. Ils ne savaient pas trop comment l'enlever non plus. Mais avec le temps, ils se sont rendus compte que de plus en plus de gens l'utilisaient, surtout des femmes, évidemment. Mais puis il y a eu un mass marketing autour de ça dans les années 40, ce qui a aidé, je crois, à solidifier la réputation des
vernis. Oui, puis c'est rendu maintenant non-genré.
Ben, c'est ça, tout le monde en a, exactement.
C'est révolutionnaire comme
ben oui,
produit
c'est
quand
ça.
Même.
Donc, c'est ça, on ne se ferme pas à tous les horizons. On se transporte du côté du cinéma. Moi, il y a une très belle invention qui n'a pas pogné et puis qu'Avatar, en plus, a lancé.
Oui.
C'est, ben, semi-lancé, popularisé peut-être. C'est le maudit 3D au cinéma.
Ce n'est pas
l'invention que moi, je vais décrire, mais ça, c'en est une que tout le monde a fait « Waouh, le 3D, c'est magique! » Puis deux ans après, il n'y en avait plus. Là.
Je l'ai déjà dit une fois en ondes, mais moi, on dirait que mon souvenir du 3D, c'était vraiment Spy Kids avec vraiment les éléments qui sortent de l'écran. Moi, ça m'a marqué mon enfance.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'Avatar et les films succincts après ça, c'était plus le même 3D. C'est vraiment plus dans l'aspect des décors qui ont l'air plus d'une grande dimension. Exactement, mais il n'y a plus d'effet justement de te faire surprendre d'une certaine manière. Là.
Non, c'est ça. Mais l'invention qui a été ridiculisée à l'époque, c'est l'arrivée du cinéma parlant. Parce que les gens ont fait, donc ça n'a pas de bon sens. Le monde ne s'en va pas là pour écouter du monde parler. Ils s'en vont là pour écouter de la musique puis voir des images. Évidemment, ça coûtait cher faire un film parlant à l'époque parce que, premièrement, il fallait inventer la technologie. Deuxièmement, c'était pas tous les cinémas ou toutes les salles qui étaient équipées pour la diffuser. Là, il était comme, ça coûte bien trop cher, puis tu sais, ça rajoute comme un niveau de complexité, surtout qu'à l'époque, il n'existait pas vraiment de cinéma pour des cinémas. C'était des théâtres qui se convertissaient tranquillement en salles de cinéma. Donc, ça a pris du temps. C'est The Jazz Singer qui est souvent considéré comme le premier film parlant, mais ça a pas pris du temps à pogner parce que dans le domaine, c'était quand même populaire, mais c'est ça, certains producteurs se sont opposés, surtout parce que je pense qu'ils ne voulaient pas payer pour l'infrastructure que ça amenait. Mais ça a tué la carrière de plein d'acteurs, notamment. J'ai pas vraiment de nom, en tout cas, ça me sert à rien de vous donner des noms, parce que je suis pas ici pour faire un cours d'histoire, mais il y avait beaucoup d'acteurs de l'Europe qui venaient aux États-Unis faire des films, puis évidemment, ils parlaient pas tant anglais
que ça,
fait qu'ils faisaient juste acter, mais après ça, quand ça s'est mis à être parlant, ben là, fallait que tu parles en anglais, puis c'était pas évident.
Chacun de son bord de l'océan.
Fait que ça a tué la carrière de plein de gens, notamment la première personne qui a gagné un Oscar pour meilleur acteur. On l'a plus jamais revu aux États-Unis après le cinéma parlant, donc on le salue.
Ça a vraiment révolté. Là, on dirait que je verrais plus ça en ce moment, des films à l'affiche sans parole.
Non, il y en a, mais très peu. Tu sais, mettons, le dernier gros, ça a été The Artist en 2011-2012, je pense, qui avait gagné d'ailleurs l'Oscar. Mais tu sais, là, c'était rendu ça, le nouveau. Waouh, ils ont réussi à faire un film muet. Là, t'es comme, mais tout le monde en faisait avant. Bref, c'est ça. Ça a fait peur à ben du monde. Puis finalement, on s'en sort bien. Il m'en reste trois. Donc, il y a le cheeseburger qui était considéré comme une spécialité était typiquement californienne. Les gens ne pouvaient pas concevoir qu'on puisse jumeler de la viande avec du fromage et avec d'autres condiments d'un hamburger, notamment la tomate. Mais c'est ça. Puis il y a plein d'articles à l'époque là, qui essayaient dans les années 30 et 40 qui c'est ça, comme, c'était comme leur poutine, je sais pas trop quoi. T'allais en Californie puis t'allais manger un cheeseburger puis t'étais comme, ah, mais t'sais, le monde n'aime pas ça, mais bon, t'sais, ça existe pareil. Puis c'est vraiment avec l'arrivée des fast-food dans les années 50 et 60, évidemment, McDonald's a joué un rôle important.
Ben oui.
Mais donc, c'est ça qu'eux se sont mis à ajouter ça à leur menu. Puis là, ça s'est démocratisé. Donc, ça fait pas longtemps, le cheeseburger. Là, on est passé à une autre étape avec des pizzas au cheeseburger, des affaires de même. Mais bon.
Plein de trucs innovants qui ont des fois l'air dégueulasses au final.
Exactement.
Mais...
pas sûr que la pizza, c'était un bon move nécessairement, mais le cheeseburger, je pense qu'il est là pour rester. Puis un burger pas de fromage, c'est plate en maudit.
Ben oui.
Les répondeurs.
Ah,
les répondeurs, ça a causé polémique. En fait, tout le monde voyait que c'était utile, sauf ceux que ça concernait, c'est-à-dire les compagnies de téléphone. Parce qu'eux, ils ne voulaient pas en fait créer, c'est toujours une question d'argent, mais ils ne voulaient pas créer l'infrastructure puis ils faisaient de la publicité contre les répondeurs en disant que ça faisait des interférences sur leur propre ligne puis ils ne voulaient pas que les gens achètent ça. Évidemment, la tactique, ça a été de stopper un peu la production de répondeurs jusqu'à temps que ces compagnies-là, notamment AT&T, en tout cas d'autres compagnies américaines, jusqu'à temps qu'eux aient le temps de confectionner leur propre machine et puis qu'ils les sortent sur le marché. Puis finalement, là, c'était rendu correct. Mais c'est même le gouvernement américain qui est intervenu en 1975 pour faire une loi sur le fait que c'est légal, un répondeur. Puis que là, tu avais le droit de... Ben, en tout cas, qui... Ils voulaient enlever le monopole aux compagnies de téléphone, à proprement dit. Donc, je pense que tout le monde en voulait. Tout le monde comprenait son utilité, mais c'est ça. C'est les maudites compagnies de téléphone qui s'y sont opposées. Et la dernière, et non la moindre, on en a deux ici en studio, c'est les laptops. Les gens, c'est sûr que les premiers laptops, c'était pas aussi développé que ceux qu'on a aujourd'hui. Dans les années 80, en fait, c'était comme une dactylo, mais... électronique, si on voulait. Puis là, les gens, ils se demandaient à quoi ça servait, finalement. Hey, qu'est-ce que tu peux faire sur un laptop qui ne peut pas attendre d'être à un vrai ordinateur, par exemple? Là, il était comme, là, tu peux pas amener ça à la plage, ça sert à quoi? la qualité de la batterie aussi était pas top à l'époque, ça devait pas, l'autonomie devait pas être super bonne. Il était comme, tu sais, à quoi ça te sert d'avoir un clavier portatif quand, surtout à l'époque, il n'y a pas de Wi-Fi, fait que, tu sais, il n'y a pas d'Internet.
Puis dans les écoles, c'était pas l'outil qui était utilisé majoritairement, alors qu'aujourd'hui, c'est quasiment rendu indispensable d'avoir un ordinateur pour travailler, pour fonctionner à l'école.
Exactement. Fait que c'est vraiment les limitations qui ont fait que ça a été un objet pas très bien reçu à sa sortie. Mais finalement, avec les différentes les micro-puces, des trucs comme ça, on a réussi à rapetisser, à rendre ça un peu plus portable et un peu plus performant. Puis ça, c'est ça, aujourd'hui, je pense que no turning back. Exactement.
Ouais.
Mais la technologie, ça aussi, c'est une espèce de boîte de Pandore où tout le monde essaie de faire des innovations que personne n'a demandé. Puis, je sais pas, il essaie de faire the next big thing, puis ça marche pas tout le temps. Je me demande quelle invention en ce moment, là, on juge souvent une invention qui vient de sortir ou une application. Des affaires de même, mais c'est dur de juger
sur
de ses impacts, c'est
exact.
Ça, dans quelques années. Fait que ça va être intéressant. T'sais, Netflix a commencé comme blockbuster et puis s'est diversifié avec le temps. J'ai hâte de voir ça. De voir ça. Je vais essayer de penser à des inventions là, absurdes en ce moment, puis je vais aller acheter des actions de leur compagnie. voilà, donc on s'en va en pause et au retour, on va s'entretenir avec Marianne Farley. Ben, en fait, on va rediffuser l'entrevue que j'ai réalisée plus tôt avec Marianne Farley.